Radio.
Radio. Radio Caravane.
Studio.
Chapeton.
La magie des arts.
Radio.
Radio. Radio Caravane.
Bienvenue à l'écoute de Radio Caravane. Aujourd'hui, en exclusivité pour vous, une émission sur l'inclusivité dans le cirque.
Au programme, Sophia, artiste de cirque de la compagnie Dell, nous parle de féminisme et d'activisme.
On vous propose de réécouter K1, KA sur la question de genre à travers la figure du clown.
Tout de suite, donnons la parole à Claire et Clara de l'école de cirque adaptée par hasard.
Bonjour, je suis Clara et je travaille à Par Hasard depuis 3 mois. Et au sein de l'association, j'ai une double casquette, comme on dit dans le milieu. Je suis à la fois chargée de la coordination des événements et pédagogue de cirque.
Bonjour, moi je suis Claire, je travaille à Par Hasard depuis presque 2 ans. Moi, je suis embauchée, on va dire officiellement, depuis 1 an. Et moi je suis animatrice en cirque adapté.
Où et comment est née Par Hasard ?
Alors Par Hasard, c'est une association en fait qui est née d'une convention de jonglerie qui s'appelle Bout du la Jongle, qui a donné lieu à un festival qui a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et en fait, de cette convention de jonglerie, quelques années plus tard, est née l'envie de proposer des ateliers en cirque adapté. Enfin, c'est vraiment inhérent au projet de l'association de s'orienter autour d'ateliers de cirque ouverts à tout type de public.
Que veut dire le terme cirque adapté ?
Alors, pour moi, le cirque adapté, c'est un cirque à destination de toutes les personnes qui sont dites empêchées de la pratique, donc des personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont éloignées et qui n'ont pas accès à cette pratique, des personnes qui connaissent pas, des personnes qui n'ont pas forcément a priori et a posteriori les capacités physiques, moteurs, pour le faire. Et donc, on développe une pédagogie qui s'adapte à chaque personne, toujours dans un objectif d'inclusion.
Voilà, l'idée c'est vraiment d'adapter la pratique du cirque à tout type de personnes. Et donc c'est vrai que à Par Hasard, on travaille avec toutes les tranches d'âge. Ça va des bébés aux seniors, avec différents types de publics. On a également des ateliers en mixité, des ateliers adultes, des ateliers enfants. Et on travaille aussi avec des institutions spécialisées de différents types.
Enfin, c'est clairement un public empêché. Et donc, on va à la rencontre des institutions qui reçoivent un public en situation de handicap. Enfin, pour vous donner des exemples, on peut travailler avec des écoles maternelles comme des IME, c'est des instituts médico-éducatifs, ou un EHPAD, une maison de retraite.
Vraiment, on est sur du tout public, en fait, parce qu'on a aussi une partie de nos ateliers, enfin tous nos ateliers ne sont pas uniquement tournés vers des publics empêchés. Donc vraiment, on est sur l'ouverture à tous les publics, puisque comme disait Clara tout à l'heure, vraiment le cœur du projet associatif, c'est l'inclusion. Et donc c'est justement de permettre la rencontre entre différents types de publics.
Comment adaptez-vous le cirque à différents publics ?
Alors l'adaptation, elle peut se faire. Donc l'avantage du cirque, c'est qu'on travaille beaucoup avec des agrès. Pour vous donner un exemple très concret, si par exemple on travaille sur de l'aérien, si on travaille avec du trapèze, eh bien on peut venir adapter la hauteur du trapèze. Voilà, on n'est pas obligé d'aller avoir le trapèze très haut. On peut avoir un trapèze très bas pour déjà juste venir convoquer des sensations de qu'est-ce que ça fait que d'avoir un pied en suspension, qu'est-ce que ça fait d'être assis sur un trapèze. Si on travaille avec la boule, on peut avoir, pour monter jusqu'à la boule, on peut venir amener des différents niveaux, comme des petites marches d'escalier pour arriver jusqu'à accéder à la boule. Donc ça peut être vraiment en fait c'est une adaptation beaucoup par rapport à l'espace, comment on va utiliser les agrès aussi, comment on va organiser l'espace de la salle pour pouvoir s'adapter, peut-être mettre en place des espaces de plus cocooning ou de repos, permettre aux personnes qui ont besoin à un moment donné de faire une pause, de sortir de l'activité, de pouvoir le faire. Après, cette adaptation, elle se fait aussi sur les cours qu'on a en inclusion. Donc cette année, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on essaie de défendre et qu'on aimerait bien pouvoir développer davantage. C'est d'avoir une personne en appui, d'être dans la mesure du possible au moins 2 personnes en animation, pour pouvoir avoir une attention aussi plus particulière sur les personnes qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique Et c'est une adaptation qui se fait aussi beaucoup par l'observation, comment observer, comment ça se passe dans l'atelier, pour voir voilà, comment on peut être attentif à la question du volume sonore, par exemple, c'est avec des personnes autistes qui sont très sensibles aux stimuli visuels ou auditifs. Ça va être aussi d'essayer d'être attentive et attentif, proposer un casque anti-bruit, essayer de limiter au maximum les stimuli visuels. La guidance aussi, ça marche beaucoup. La guidance verbale, la guidance visuelle.
Quels sont les projets et les événements organisés par l'association actuellement ?
Concernant les événements, historiquement, il existe ce qu'on appelle les circons. Des fois, ça se passe des samedis et des fois des dimanches. Cette année, c'est des circons samedis. Il y en a deux dans l'année. Le premier se déroule le 21 janvier. Et c'est une journée familiale et... de découverte du cirque. Donc l'après-midi se déroulent des ateliers un petit peu partout répartis dans la grainerie, de découverte principalement, avec des animateurs, animatrices qui sont là pour pratiquer un petit peu toutes les disciplines du cirque. Donc ça, vous pouvez venir en famille ou seul, c'est pour tout le monde. Et en fin de journée s'organise une scène ouverte qui permet à des artistes ou des non-artistes de se tester sur scène et d'avoir un public. Au-delà des circons, on a ce qu'on appelle la RAM, c'est les rencontres acrobatiques multiples qui se déroulent en février. C'est sur un week-end, sur deux jours. C'est un moment de partage et de recherche sur toutes les disciplines de l'acrobatie, qui sont vastes parce que ça va d'une acrobatie qu'on peut appeler traditionnelle avec des sauts périlleux, des mouvements acrobatiques ou des choses qui peuvent plus s'apparenter à de la danse, à de la recherche corporelle et parcours, capoeira. Donc ça apparaissait sur un week-end. Et ensuite, nous avons notre gros événement de fin d'année qui est les amates en scène, amateurs et amatrices en scène, qui se déroule en juin, le 10 et 11 juin, qui est un week-end où tous nos groupes d'amateurs et amatrices vont créer quelque chose, on ne sait pas encore quoi, parce que ça se construit tout au long de l'année. Et sur un week-end, on permet à tous les groupes de jouer dans une organisation et une ambiance professionnelle, donc par le près de la salle de diffusion de la grainerie. Et on travaille avec des techniciens et techniciennes professionnelles pour organiser tous les plateaux et les petits spectacles de fin d'année. Et il y a aussi, de par là où est né par hasard, Boudu la jungle, qui se déroule les premiers week-ends de juillet. Un événement qui, à la base, est une convention de jungle. Voilà pour les événements. Les projets, on a de multiples projets en parallèle des événements vraiment ouverts au public. Par exemple... Pour vous donner un exemple concret, moi, je travaille sur un atelier avec un EHPAD. On essaye de travailler avec un artiste associé et une compagnie qui viendrait intervenir au sein de l'EHPAD, qui viendrait trois fois tout au long de l'année pour présenter son spectacle et permettre aux personnes âgées d'essayer la discipline qu'utilise cet artiste qui est l'aérien, grâce à des accroches spéciales et du matériel adapté aux personnes âgées, de pouvoir se suspendre en l'air. Wow. Et faire comme de la balançoire. Donc voilà, ça c'est des projets qu'on a au sein des ateliers pédagogiques qu'on mène.
Pour ma part aussi, il y a un projet avec un artiste associé qui va intervenir aussi tout au long de l'année avec un groupe d'une institution spécialisée avec laquelle on travaille depuis plusieurs années maintenant. Et après, on a par exemple un gros projet qu'on a mené l'année dernière et qui est un projet qui nous tient à cœur et qu'on aimerait pouvoir faire perdurer. C'est le projet Rancart, durant lequel, en fait, on installe un chapiteau dans une des institutions avec lesquelles on travaille. Et l'idée, en fait, c'est de faire venir du public dans ces lieux qui sont normalement des lieux fermés, qui ne sont pas des lieux ouverts au public, et de permettre aussi à des publics qui n'ont pas accès au cirque de pouvoir y avoir accès sur leur lieu de résidence.
Comment est-ce que nous, grand public, on peut faire pour soutenir votre association par hasard ?
Eh bien, venir aux événements avec votre joie, votre bonne humeur et votre participation. Bien évidemment, être bénévole sur tous les événements, il y a vraiment la possibilité d'être bénévole à différents postes, comme juste faire de la billetterie, tenir le bar, nous aider à de l'installation ou animer des ateliers de cirque.
Faire parler de nous.
Ouais, voilà, faire parler de nous. Et voilà, sur des événements ponctuels, on a toujours besoin de monde avec nous.
On serait ravis de vous accueillir.
Ouais.
Où est-ce qu'on peut suivre la vie de votre structure?
Donc on a le site internet parhasard.org.
Et par hasard, ça s'écrit P-A-R-H-A-Z-A-R-T.
C'est à vive voix que Sophia nous parle de son combat en tant que femme activiste et artiste qui n'hésite pas à foncer dans le tas.
Sophia Antoine, donc je fais partie de la compagnie Dell, donc c'est une compagnie qui a ses bureaux à la Grainerie. La compagnie Dell, c'est une compagnie avant tout de l'espace public, donc c'est une compagnie en fait qui défend une grammaire dans l'espace public et qui travaille aussi avec des corps circassiens, c'est-à-dire que c'est une compagnie qui va s'approprier des espaces et qui va raconter des histoires avec des corps extraordinaires.
Quel est votre rôle dans la compagnie Dell?
Aujourd'hui, être dans une compagnie, c'est vraiment être multitâche, avoir plusieurs rôles. Moi, à la base, j'ai une formation de chef monteuse. J'ai travaillé énormément pour la télé, notamment des chaînes politiques. J'ai monté aussi beaucoup de documentaires. Et petit à petit, en fait, le milieu de la télé étant extrêmement sexiste, j'ai subi pas mal d'agressions sexuelles dans l'obscurité de mes régies. J'ai décidé, avec ma sœur jumelle, de créer la compagnie Dell pour pouvoir inventer d'autres regards, explorer le female gaze et proposer des récits qui vont à l'encontre des récits dominants.
Vous vous définissez comme une compagnie de cirque féministe?
Oui, une compagnie de cirque féministe, déjà parce que c'est nécessaire. Alors au début, on faisait ça de façon un peu cachée, hein, avant le mouvement MeToo, il y a 5 ans. On était assez mal vus. Je sais qu'aujourd'hui, votre génération a du mal à concevoir que les féministes pouvaient être considérées comme des sorcières. Mais avec MeToo, ça a vraiment changé, déjà parce que le secteur du spectacle vivant a pris conscience des disparités entre les femmes et les hommes. Il y a eu des rapports extrêmement pertinents qui ont été mis en place, notamment avec le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui est une instance séparée du gouvernement et qui fait des bilans, qui a pu pointer du doigt ce secteur qui, soi-disant, est hyper éclairé, hyper novateur, en montrant en fait que dans la sphère artistique, les inégalités persistent, elles sont extrêmement violentes et les femmes sont moins visibles et moins entendues qu'à l'armée.
Comment intégrez-vous cette notion de féminisme à travers vos différents spectacles?
Ça s'intègre pas que dans les spectacles, déjà dans un fonctionnement. Refuser certaines choses qui sont mises en place, par exemple hypersexualiser les artistes au plateau, s'emparer des espaces qui ne sont pas dédiés aux femmes ou en tout cas au corps féminin, que nous on travaille dans la rue, dans l'espace public, et déjà c'est un geste extrêmement politique d'aller dehors et de s'approprier des espaces en fait que les femmes ne font que traverser, hein. Vous connaissez forcément les stratégies d'évitement, elles passent d'un point A à un point B, elles ne stagnent pas dans l'espace public. Or, en mettant en place des gestes artistiques dans l'espace public, et on s'approprie des parkings, des garages, la rue. On va aller dans des endroits où on ne nous attend pas et libérer une parole, un point de vue qui est assez novateur. À l'intérieur même d'une compagnie féministe, eh ben, y a différentes formes d'interrogations. La compagnie Dell a créé une émanation féministe qui s'appelle Les Tenaces. Ça fait 5 ans que ça existe. C'est une émanation qui organise des journées et interroge le spectacle des arts vivants et de la rue sur différentes problématiques. On peut questionner la problématique de la grossesse chez les femmes de cirque. Bien souvent, on s'aperçoit qu'il y a une grosse disparité à partir du moment où les femmes tombent enceintes. Elles disparaissent. Souvent, on a la sensation qu'il y a du risque chez un artiste ou chez une artiste de cirque, c'est de monter à des hauteurs insensées, en déséquilibre. Et maintenant, le plus grand risque pour une femme de cirque, c'est et de vieillir et de tomber enceinte. Ce qui fait que les femmes de cirque vont s'évaporer, elles sont souvent prégnantes dans les écoles, elles sont complètement évacuées du secteur. Donc c'est repenser ces questionnements-là et l'appliquer à l'intérieur même de la compagnie, c'est-à-dire maintenant c'est quoi une compagnie féministe si je réinvente pas même les rôles qui me sont dédiés, que ce soit de l'administratrice à la charge de diffusion, à l'interprète, c'est de tout re-questionner, de questionner aussi ces corps qui évoluent, qui deviennent mères et comment ils se transforment, comment on adapte les partitions, comment on revendique des corps qui stagnent pas dans une performance mais qui vont évoluer avec le temps. Il y a aussi un besoin chez la compagnie d'El de parler et de revendiquer un matrimoine. Donc on est à un autre endroit du patrimoine, on est à un endroit où on valorise des femmes autrices, peintresses, des femmes qui ont proposé d'autres visions artistiques mais qui ont été complètement invisibilisées par l'histoire de l'art. Donc on porte aussi ces fameuses journées du matrimoine. Donc là par exemple, on a parlé dernièrement au mois de septembre de deux femmes, donc on relie un matrimoine du passé vers un matrimoine du futur. On a parlé de Jeannette MacDonald, une dompteuse, et on l'a reliée à Camille de Courtis, en fait, qui est une femme qui dresse et travaille avec des chevaux de la compagnie Barreau d'Evel. Donc c'est vraiment essayer de se créer comme ça de nouvelles références, ou en tout cas de les dépoussiérer pour pouvoir avoir d'autres modèles, s'identifier à des femmes qui ont fait des choses extraordinaires et dont on sait finalement que très peu de choses.
D'après vous, quels sont les a priori autour du mot féminisme dans le cirque et dans la société ?
Ils sont énormes. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai pas pour habitude, moi, de dissocier l'artiste de la militante, contrairement à certaines personnes qui vont dissocier l'artiste du violeur. Là, je pense à Polanski et à d'autres, ils étaient assez nombreux. Non, moi, je crois que mon moteur, mon ADN, mon champ de création est irrigué par ma posture de féministe. Et c'est très très important de l'entendre. Donc avant évidemment que ça vienne irriguer ma posture d'artiste, je suis avant tout devenue militante. Donc moi-même, j'ai expérimenté de façon extrêmement concrète la dimension féministe parce que je suis depuis 11 ans porte-parole et activiste fémène. J'interviens de façon extrêmement physique dans l'espace public, dans des espaces médiatiques qui évidemment ne me sont pas dédiés, et je viens interférer avec un corps militant auto-mis en scène, des discours avec un cri, une clameur, essayer de contrecarrer un discours dominant et une logique de pensée.
Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que femme féministe dans le milieu du spectacle ?
Elles sont extrêmement nombreuses. Déjà, on est invisibilisées, on subit, comme dans tous les secteurs, le plafond de verre. On a l'habitude de dire, tôt ou tard, il va falloir mettre des casques à pointe pour péter ce plafond de verre. Et puis, j'ai une stratégie aussi que je prends du cul, je m'élargis et j'essaie de ramifier. On fait peur parce que bien souvent, il y a des idées extrêmement arrêtées sur les féministes. Je rappelle, c'est le désir d'égalité à tout prix en termes de droits humains, de donner le choix aux personnes de faire ce qu'elles ont envie de faire ou de ne pas le faire.
Est-ce que vous trouvez que la place des femmes a évolué dans le monde du cirque ces dernières années ?
Eh bien non. Alors le cirque, c'est une petite niche. Au sein de la grainerie, on a une véritable attention de la direction qui nous accompagne. Et d'ailleurs, il y a une volonté de faire une programmation paritaire, d'essayer de faire des budgets genrés, de réfléchir même aux endroits de diffusion des femmes, parce que bien souvent, les femmes sont diffusées dans des heures de moins bonne écoute. Il y a plein de choses à mettre en place et surtout bien penser que le diable se cache dans les détails. C'est compliqué d'être féministe, on fait chier tout le monde. Toujours s'insurger et répéter qu'on veut l'égalité, ça paraît une violence pour les personnes qui sont dans des situations privilégiées. Mais il n'empêche qu'on ne lâchera pas. La première raison, c'est pour vous. On se bat pour une génération qui arrive. Et surtout, de bien saisir une chose, c'est que jamais nos droits ne sont acquis. Vous l'avez bien vu avec le droit à l'avortement, où il y a une partie des États-Unis, des femmes qui ont perdu le droit d'avorter. Et c'est extrêmement grave. Attention, en aucun cas, les féministes sont pour l'obligation d'avorter. En fait, c'est juste avoir le choix.
Comment expliquez-vous ces inégalités ?
Tout simplement, de façon systémique, on est dans une société patriarcale. On a un exemple extrêmement flagrant au niveau de la justice. Le code civil, on est sur des lois qui sont confectionnées pour les hommes, par les hommes. On est emprunt dans ces sociétés de sexisme et d'inégalité. Et c'est aux femmes, évidemment, de prendre leur revanche et de s'appliquer à faire changer la donne. Je crois profondément qu'il y a en nous une colère, même si elle est antédiluvienne. Elle nous possède. Chacune et chacun peut faire évoluer les choses à son échelle, ne serait-ce que en se positionnant contre le sexisme de façon quotidienne.
Comment liez-vous militantisme et création artistique ?
Eh bien, en fait, j'ai intégré Femen parce que c'était très simple pour moi. J'ai un amour immodéré pour l'espace public. Je crois au pouvoir des images choc, je crois au pouvoir des slogans punchline, je crois à la magie virale des réseaux sociaux. Et via ces messages extrêmement concis, j'arrive à fédérer des millions de vues, j'arrive à être entendue. Et en fait, c'est pareil au niveau de mon espace artistique. Je m'approprie des récits et j'essaie de travailler. Alors, c'est pas simple parce qu'on est pétri de sexisme et de valeurs patriarcales. Et oui, même moi, sans arrêt, je déconstruis mes récits et j'en crée des nouveaux et je valorise le female gaze. J'essaie d'alimenter de façon pertinente ma façon de procéder pour pouvoir foutre à mal le male gaze.
D'après vous, pourquoi et comment l'artiste doit s'engager ?
Je crois que l'artiste, il doit s'engager, il doit être au cœur de la cité. Moi-même, là, par exemple, je suis à la Grainerie, mais en parallèle, je travaille à Clichy-sous-Bois. Alors, vous connaissez bien 2005, la ville des émeutes. C'est une ville, en fait, qui est marquée au fer rouge par les violences policières. Et c'est une ville ghetto, une des villes les plus pauvres de France. Et donc, du coup, elle est très intéressante parce qu'elle me permet non seulement, moi, de me déconstruire, mais aussi de travailler avec des femmes qui portent l'inacceptable et d'observer comment elles transforment leur colère dans des actes construits. Bien souvent, on a la sensation dans ces collectivités, il n'y a que les hommes qui ont le pouvoir sur les violences policières et on oublie souvent les femmes. Moi, je crois vraiment qu'il faut se nourrir de ce que nous apportent les autres, il faut travailler ensemble. Je crois profondément à une horizontalité et à un partage de connaissances. Je suis pour les droits culturels. Je considère que je n'ai rien à apporter à des personnes, que c'est juste un partage. Je suis vraiment sur cette voie-là, ni plus haut ni plus bas, au même endroit que toutes et tous.
Comment sensibilisez-vous et dénoncez-vous les violences sexistes dans le milieu du spectacle ?
Via les réseaux, évidemment. Donc, on a une page Journée du matrimoine et puis on a la page des Tenaces où on valorise des artistes femmes. Je reste persuadée d'une chose, quand une personne éclaire, on regarde la personne qui est éclairée, mais on regarde aussi la personne qui éclaire. Pour moi, c'est très important de refuser la rivalité, de se tendre la main. Pour moi, mon maître mot, ça reste la sororité. Donc, je reçois plus d'une dizaine de personnes par jour en écoute pour les orienter vers un médecin adapté à justement aux violences systémiques qu'elle a subies, ou des avocats, ou alors une personne qui se retrouve vraiment dans une misère crasse et qui a besoin de remplir son frigo. Ou une femme SDF qui m'appelle à l'aide, et ben je vais l'exfiltrer, lui trouver des nuitées d'hôtel. On est vraiment sur des endroits alors de bidouillage, parce que les associations ont très peu de subsides, mais en plus sont surchargées. On aide comme on peut. Je crois réellement au réseau. J'ai eu un chapitre qui parlait de mes pratiques sur féminisme et réseaux sociaux où je défendais que les réseaux sociaux sauvent des vies. Tous les jours, j'arrive à trouver des personnes qui hébergent des femmes qui sont dans des situations d'extrême urgence. On peut tous s'entraider, on peut toutes s'aider. Il faut juste décloisonner et se saisir de tout.
Voyez-vous des impacts et des changements concrets ?
Oui, j'en vois. Et dernièrement, d'ailleurs, je suis fière. Il y a 4 ans, en 2018, une jeune fille de 11 ans a été déclarée consentante suite à un viol qu'elle avait subi d'un homme de 28 ans. On s'est battu, on a mis en place un front de résistance. On a interpellé les ministres, la justice. On proposait un seuil de protection pour les mineurs. À partir de 15 ans, c'est automatique. Une personne adulte ne peut pas avoir de relation avec une mineure. Autrement, c'est déclaré comme viol. Grâce à cette mobilisation, la justice est revenue sur sa décision. L'affaire qui avait été correctionnalisée finalement a été jugée aux assises pour viol. Et l'homme qui avait été relaxé pour atteinte sexuelle a été condamné pour viol à 8 ans. Il y a 4 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, plus personne ne considère qu'une fillette de 11 ans peut être consentante. Il y a 4 ans, ce n'était pas gagné. Même la justice nous riait au nez. L'égalité, l'équité, c'est le bon sens. Jamais oublier que les féministes, même si on paraît un peu radical, finalement, c'est quoi une paire de seins avec un slogan ? Face au féminicide, face au sexisme, face au viol, n'oublions pas quand même qu'il y a une enfant sur 10 qui subit l'inceste encore aujourd'hui et que le terme inceste est rentré dans le code pénal il y a 18 mois suite à la vague MeToo inceste que j'ai mise en place.
Comment percevez-vous le changement de mentalité aujourd'hui ?
Il est extrêmement positif. Quand je vois cette génération qui est là, mobilisée, qui travaille de façon horizontale, qui déplore le sexisme, qui réfléchit à toutes ces problématiques, alors que moi, j'y avais même pas accès, j'y pensais même pas. Je trouve ça éblouissant. J'ai confiance, je suis enthousiaste, même si on est sûr de l'éco-anxiété et que finalement, je me dis que deux féministes radicales, je vais peut-être devenir aussi éco-terroriste. En tout cas, je suis profondément optimiste. Je crois en vous parce qu'il va falloir que vous preniez la relève. Je suis un peu usée.
Où peut-on retrouver vos dates et actions ?
Vous pouvez retrouver les dates et actions sur la page Facebook et les comptes Instagram de la compagnie Dell, la page des Tenaces, page dissociée parce qu'une page plus militante, et la fameuse page des journées du matrimoine. Je poste de façon récurrente et je fonctionne énormément par viralité.
Nous vous remercions pour cette interview, ce fut un grand plaisir.
Merci à vous.
En 2016, nous avons rencontré la compagnie K1KA qui présentait le spectacle Bottom. Nous avions discuté des questions de genre autour du clown. Replongeons-nous dans ce sujet, toujours d'actualité.
Bonjour, je m'appelle Daniel Gulco. Ma compagnie s'appelle K1KA, basée à Marseille.
Je suis Adèle Nodet-Langlois, je suis clown et je travaille pour la mise en scène du spectacle de clown de Gulco, compagnie K1KA.
Nous avions interviewé la compagnie K1KA en 2016 lors d'un accueil de création à la Grainerie pour le spectacle Bottom.
C'est un spectacle de clown, donc c'est assez typique. C'est un spectacle sensible sur des questions d'identité et des questionnements sur l'amour.
Parlez-nous de votre personnage.
Donc ce clown s'appelle Bottom. C'est un hobo, on dit en anglais. Ce sont des vagabonds qui travaillent. C'est pas un clochard. Des fois, il travaille, après il repart. Des fois, il a un petit peu de vie quelque part, mais il ne reste pas dans une place. Donc il est assez solitaire.
Pour vous, y a-t-il une norme du genre dans le spectacle vivant ?
Ce qu'il y a, c'est que quand on travaille le clown, en fait, pendant longtemps, on a dit que le clown n'avait pas de sexe, pas de genre. On en a profité pour avoir que des clowns hommes, d'ailleurs, comme ça, ça facilitait les choses. Il y avait juste, en fait, un genre unique qui était le clown homme. Je dis ça en connaissance de cause parce que moi, je suis clown femme et il y en a de plus en plus, heureusement, mais il y en a quand même moins que des clowns hommes. En tant que clown femme, je sais que quand j'ai commencé à jouer, on m'a tout de suite demandé quelles sont les spécificités du clown féminin, qu'est-ce que c'est que le rire féminin. Et en fait, franchement, ça m'énervait parce que je me disais, vous ne poseriez jamais les mêmes questions à un homme. Vous iriez jamais voir un homme pour lui demander quelles sont les spécificités du clown masculin, qu'est-ce que c'est que le rire masculin. Donc pour moi, c'est en fait être un clown féminin, c'est déjà être féministe. C'est incroyable, juste être sur scène et d'être un clown féminin, c'est déjà être féministe et c'est déjà défendre le genre féminin. Moi, je pense que le clown a un genre féminin ou masculin qui peut. Le clown a beaucoup de liberté. Donc en fait, il peut passer du genre féminin au genre masculin, au genre animal, et c'est la grande liberté. Mais j'aime bien imaginer que le clown a un genre, plutôt parce que ça permet d'en parler dans la société, en fait. Pour moi, c'est la société qui a un problème avec le genre, c'est pas le clown. Mais au moins, le clown permet d'en parler.
En mars 2014, une rencontre a eu lieu à la Grainerie sur les esthétiques queer. Ce 19 mars, une nouvelle rencontre aura lieu dont le thème est la déstabilisation de la norme. En quoi ça consiste ?
Moi, je peux juste dire mon petit rapport à moi, en fait. Moi, j'étais là parce qu'on a dit que ce spectacle a une certaine esthétique queer. Voilà, donc je travaille autour de cette idée. En fait, c'est un joli mot queer, ça veut dire étrange. Et ça a été utilisé à la fin du 19e siècle pour... parler des homosexuels d'une façon, surtout des femmes en fait à cette époque-là, c'est « Well, you know, she's a little bit queer », elle est un tout petit peu étrange pour dire qu'elle était homosexuelle. Donc ce mot, il a bougé dans le temps et c'est devenu une insulte. Quand moi j'étais gamin, c'est vraiment, quelqu'un t'appelle un queer, tu donnes un pain dans la gueule, « Non, je suis pas queer moi, je suis un garçon !» Donc c'était une insulte dans les années 70 et dans les années 80, le mouvement homo l'a repris fièrement. We're here, we're queer. Nous sommes ici, nous sommes queer. Et de là, drôlement, ça a développé une théorie culturelle qui maintenant est enseignée dans les universités. C'est incroyable. Et donc, l'idée du queer s'est ouvert au début. C'était vraiment cette idée, t'es un homosexuel. Et c'est devenu, tu ne rentres pas dans les normes. Tu vis sur les marges, mais tu as une intégrité sociale. Tu n'es pas un rejet de la société, mais tu fais des choix autres. Donc, ça commence à inclure tous ces gens aux marges, les handicapés, les gens de couleur, les migrants. Commencer à discuter comment on se fait un peu tous formatés par la norme.
Après, le clown, il questionne toujours la norme, vu qu'il est plutôt du côté anormal. Où, un clown ne peut pas exister dehors, en fait. Je pense qu'il mourrait en deux secondes, quoi. Je veux dire, ça ne fonctionne pas, un clown. D'abord, il se prendrait, je sais pas, le mur. Après, il se prendrait une voiture dans la tête. Enfin, ça ne marcherait pas. Un clown est forcément hors norme. Après, avec le spectacle Bottom, nous, on n'a pas travaillé sur l'homosexualité ou sur le transsexualité, enfin, surtout des termes comme ça, on parle de déstabiliser la norme, mais on a plutôt travaillé sur l'identité d'un être humain, sur notre part féminine et masculine, qu'on a tous, en fait. Et c'était plutôt une idée de comment, à la fois, sentir ces deux parties-là qui sont désunies et ces deux parties-là qui se réunissent et comment unifier nos parties masculines et féminines. Et c'est peut-être plutôt que, dans notre société, je pense que, spécialement pour un homme, c'est très difficile d'affirmer une partie féminine. Et t'as pas besoin d'être homosexuel pour affirmer une partie féminine, c'est juste normal en fait. Donc voilà, c'est de trouver un peu, d'élargir l'espace pour que tout puisse s'exprimer de notre identité.
Aimer avec le cœur ouvert.
Radio Caravane, son sur scène.
Radio Caravane.
Radio Show.
Cette émission touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Retrouvez nos podcasts et bonus sur radiocaravane.net. À très bientôt!
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Média Commun et Yves Assam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires.
Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.